Chaque histoire de ce podcast est une trajectoire de vie personnelle, singulière. Elle ne représente qu'elle-même, car chacun a son histoire et chacun a sa mémoire.
Et de nous, qui se souviendra ? Par Nicole Guidicelli.
Henri est un pied noir né à Mostaganem, dans l'ouest algérien, département d'Oran. L'histoire de sa famille en Algérie commence vers 1840. Fuyant les grandes misères d'Espagne et d'Italie, ses arrière-arrière-grands-parents demandent l'asile à la France et la France les envoie de l'autre côté de la Méditerranée. La famille est modeste, alors le père d'Henri se met au travail à 13 ans, des petits boulots de peintre et de maçonnerie. Il s'engage ensuite dans la marine nationale et sert en Indochine pendant 4 ans. À son retour, il intègre l'armée de terre, les tirailleurs algériens, et se marie avec Yvonne, sa fiancée qu'il attendait depuis longtemps. Henri arrive en juin 57. Nous sommes à Mostaganem, 3 ans après le début des événements, et c'est d'un balcon de Mostaganem que le général de Gaulle, en juin 58, prononcera pour la seule et unique fois « Vive l'Algérie française !»
Moi, je suis né en 1957, donc je n'ai pas vu la naissance de cette révolution. Je suis né en plein dans cette révolution, donc avec des méconnaissances, des incompréhensions, pas trop de questions à me poser, étant petit. Mais ensuite, des choses sont apparues beaucoup plus graves à mes yeux, certainement parce que à 4-5 ans, on commence à prendre conscience de certaines choses auxquelles on ne prend pas conscience quand on a 2 ans ou 3 ans. Quoi, voilà. Que peuvent faire des enfants d'une révolution? Ils n'en ont rien à faire. Donc, on jouait, on s'amusait, ils venaient à la maison, dans la cour, derrière, où on allait jouer sur la place, pas trop loin, un peu sous la surveillance de ma mère. Je n'ai pas senti d'agressivité de la part des enfants, pas du tout. On jouait ensemble, on avait des jeux, des fois des jeux qui étaient issus de la communauté maghrébine, ou des jeux que on s'échangeait en fait nos cultures. Donc, sans vraiment vouloir le faire en réalité, mais on le faisait. Pour ce qui est de la guerre, j'en avais une notion qui était très atténuée parce qu'en fait, quand mon père revenait, je voyais bien qu'il avait un sac à dos, je voyais bien qu'il avait une tenue spéciale, je voyais bien qu'il avait une arme, mais ça n'avait pas de signification en réalité pour moi. D'abord, je jouais avec les armes, non armées bien entendu, comme un jeu, c'était un jeu, voilà. La réalité, en fait, elle est apparue lorsque des événements violents se sont produits à proximité de notre habitation, ou par exemple quand notre voisin... qui était un militaire, mais un militaire de l'administration, s'est fait assassiner juste devant chez nous et sous mes yeux, quoi, voilà. Donc là, j'ai pris conscience d'une chose, c'est qu'il y avait une violence et qui n'était pas neutre. Et alors, ça ne m'a pas permis de tirer des conclusions là-dessus. J'ai vu quelque chose qui était violent, qui était sanglant et qui m'a frappé. Il y a eu d'autres expériences sur des nuits troubles où mon père n'étant pas là, ma mère a dû défendre la maison, arme à la main, pour nous sauver la vie, bon, ça on peut le dire. Et à partir de là, j'ai quand même pris conscience d'une chose, c'est que notre vie était en danger et on ne s'en rendait pas compte en réalité. Elle était en danger là sur un événement, mais elle pouvait être en danger sur des choses qui semblaient être totalement neutres en réalité. Tout pouvait basculer d'un instant à l'autre. Et ça, c'est une prise de conscience et c'est le début d'une peur ressentie. Parce qu'avant, j'avais aucune raison d'avoir peur. Ma grand-mère maternelle qui vivait avec nous était dans une grande anxiété, peut-être plus que nous. Elle avait connu d'autres guerres. Elle avait connu avec son mari la Deuxième Guerre mondiale, les guerres du Rif pour le roi du Maroc, la Première Guerre mondiale où elle n'était pas en France, mais où elle était dans cette crainte et dans cette appréhension permanente, quoi. Et ce sont les adultes qui ont apporté la crainte de la guerre. en fait, parce que leur discussion était plus ouverte, elle n'était plus aussi fermée qu'elle n'était auparavant. Et on entendait, et on comprenait, parce qu'on avait grandi aussi. Donc, cette peur était transmise. Donc, on avait cette peur, sans arriver à la qualifier, mais on avait cette peur malgré tout. On se méfiait de tout. Des gens se faisaient assassiner sur les marchés. On mettait des grenades peintes en rouge à la place des tomates et boum, badaboum, ça sautait. Donc, la crainte pouvait être partout. Et nous, en voyant ça, on était forcément touchés par cette crainte. Apprendre à se protéger, ben c'est grâce aux parents, parce que ma mère ne nous lâchait plus, quoi. Voilà. On ne pouvait pas être indépendant dans notre propre protection. Donc on était accompagnés sous une vigilance importante. On ne l'était pas autant que nos parents, mais nos parents l'étaient pour nous, quoi. Voilà.
Henri a 5 ans lorsque sa famille quitte l'Algérie en février 62, un mois avant la signature des accords d'Évian. Les conditions du départ sont catastrophiques pour les pieds-noirs civils, littéralement livrés à eux-mêmes. Quant aux militaires, leur départ est décidé par l'armée.
Avec une organisation, bien entendu, nous sommes partis en bateau, avec rien. Que voulez-vous avoir quand vous partez en bateau? Vous emmenez vos valises et c'est tout. Voilà. En quelques secondes, on a l'impression que toute une vie, ben, elle disparaît, qu'une nouvelle vie pointe à l'horizon, mais dont on ne connaît pas la teneur. Alors, en ce qui concerne les parents, c'était un drame beaucoup plus important, puisqu'ils y étaient nés, leurs parents y étaient nés, leurs grands-parents y étaient nés, et ils avaient la maturité de cette conscience. Et c'était quelque chose d'horrible pour eux, parce que pour eux, c'était le seul pays qu'ils connaissaient depuis des générations. Donc, quitter le pays de la sorte, c'était outrageant et c'était inacceptable et c'était révoltant. Les gens qui sont partis de là-bas sont partis contraints, mais révoltés. Le départ en bateau, pour nous enfants, c'était une grande aventure. Une première fois que nous prenions un bateau si grand, si important. Traverser la Méditerranée, c'était quand même pas rien, même si on n'en avait pas conscience, hein, à 5 ans. Moi, j'avais peur. J'avais peur de ce que j'allais trouver là-bas, puisque j'allais dans un pays inconnu. Ça, on me l'avait dit, qu'on allait en France, et la France était le pays qui hébergeait le département 99. Nous étions un département de la France, donc nous appartenions à la France. Donc nous repartions en France, inconnue. Ce voyage, on a eu la chance de pouvoir le faire avec mon père, qui était militaire et qui a pu voyager avec nous. Donc ça, ça a été bien, parce qu'il a pu structurer, en fait, ce voyage. Et en fait, s'occuper de tout un peu l'organisation à notre arrivée à Marseille, et puis de Marseille, partir à Besançon. Imaginez. Vous vivez dans un pays qui s'appelle l'Algérie, un département français. En hiver, il fait 18 degrés. Et pour la première fois de votre vie, vous arrivez dans une ville en France dans laquelle il va faire moins 25 degrés. Et votre mère est obligée de coudre pour tout le monde des vêtements parce que sinon on meurt de froid, quoi, voilà. Donc, on est dans la zone du Jura. Donc, les pins, les hauteurs, le froid, la neige, la glace. Et pourquoi cette ville-là? Ben, mon père, après sa démobilisation des tirailleurs en Algérie, a été réaffecté au 110e RIM, Régiment d'infanterie mécanisée. Donc une nouvelle affectation, puisqu'en fait, le fait de quitter l'Algérie ne le faisait pas quitter l'armée. Alors, bien entendu, différence de température, différence de climat, différence, si vous voulez, dans les têtes des concitoyens aussi. Et l'impression que ça m'a donné, c'est qu'ils ignoraient d'où nous venions, qui nous étions et pourquoi nous étions là-bas. Alors, moi, je suis gamin, j'ai ma structure intellectuelle de gamin de 5 ans, mais ça ne m'empêche pas de réfléchir et de me dire, l'impression que j'ai, c'est que ces personnes nous ignorent complètement, pas parce qu'ils ne veulent pas nous connaître, c'est parce qu'ils ne nous connaissent pas, tout simplement. Pour eux, nous sommes des gens qui débarquons d'une planète qui est autre que la leur, et je me suis dit, ça va être très dur de s'intégrer dans cette société. Alors, j'ai pas senti d'agressivité de la part d'enfants, mais beaucoup de questions. Qui vous êtes? D'où vous venez? C'est comment là-bas? Est-ce que vous êtes arabe? Est-ce que tu as fait la guerre? Vous voyez, donc, un gamin de 5 ans demande bien entendu à un autre gamin de 5 ans s'il a fait la guerre. Et moi, la conclusion de toutes ces questions qui me sont posées, elle est simple, c'est que les gens découvraient qu'il y avait une population française en Algérie. Après, c'est plutôt côté de mes parents. C'est les questions que pouvaient poser des voisins qui nous regardaient comme des spécimens et qui nous mettaient sur le dos toutes les misères du monde. Parce que la vision qui était projetée en France de la population pied-noir en Algérie était que nous étions des tortionnaires et des malfaisants. Enfin, moi, je sais que non, avec le recul. Je sais que non, parce que quand on est un ouvrier, on n'a aucune puissance, aucun pouvoir. En revanche, les grands propriétaires terriens, qui ne sont rien d'autre que les grands propriétaires terriens français qui sont partis là-bas pour faire de la colonisation et de l'exploitation agricole, ont fait travailler des tas de gens, sans souvent les payer et en les abrutissant. Donc, moi, je suis pied-noir, mais conscient d'une chose, c'est qu'on a perdu l'Algérie, c'est pas de la faute des Algériens, c'est de la nôtre. On a perdu par notre faute. Par notre faute et par l'acceptation des pouvoirs que des choses comme celle de l'exploitation agricole par des grands fermiers français puissent se faire sans aucune règle en réalité. Voilà. Alors, ma famille a déjà subi un premier choc, parce que moi, j'étais gamin en 58, mais il y a eu le discours du général de Gaulle. Il est très clair que l'Algérie allait être rendue. C'est certainement une bonne pensée, à mon sens. Hein. Sauf qu'on oublie à peu près 120 ans de présence, de construction, d'élaboration, de culture, et qu'il ne faut pas mettre en avant les grands fermiers qui ont provoqué la destruction de ce pays par rapport à ceux qui étaient des pauvres ouvriers émigrés comme ma famille, qui ne sont arrivés avec rien et qui sont repartis de toute manière avec rien. Donc, ça c'est ce qui peut me marquer le plus, c'est de me dire je viens d'une famille de pauvres qui n'a pas eu la possibilité de grandir. Mais c'est un peu dommage que les gens aient fait tant d'efforts pour au bout du compte en tirer si peu d'intérêt. Donc c'est malheureux. Voilà. L'impact de la guerre sur ma famille, mon père et ma mère ont été très marqués, et je pense que ça a été le sujet de conversation du reste de leur vie. Moi, est-ce que ça m'a marqué à titre personnel? Pas immédiatement, mais quand j'ai eu 10-11 ans, il y a eu des prises de conscience qui ont été faites. Et quand je pense à l'Algérie, je ne l'assimile pas à une souffrance personnelle. Parce que j'étais trop jeune pour la ressentir. J'essaie de rester objectif. J'ai été jeune, j'ai vécu ailleurs, et j'ai grandi ailleurs. En revanche, je pense à la souffrance de mes parents. Je pense à la souffrance de la famille, parce qu'ils y étaient nés, et que leur famille y était née depuis plusieurs générations. Donc, imaginez, vous êtes en France, et puis on vous dit, madame, monsieur, vous prenez votre valise et vous dégagez. Il aurait fallu que les Français prennent conscience de ça, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé chez les pieds-noirs qui devaient quitter l'Algérie. C'est quand même rare d'avoir un département français qui fout dehors sa population. Et avec la bénédiction du Seigneur. Hein. Arrivé en France, le problème c'est que tout le monde est rentré par ses propres moyens, sans forcément avoir des moyens de communication les uns avec les autres. Et ils se sont finalement retrouvés dans des lieux complètement disparates. Impossible de se repérer, impossible de se contacter. Et là, ça a provoqué vraiment un éclatement familial. Donc, alors, est-ce qu'on peut retrouver quelqu'un avec qui on s'est perdu de vue en France ? Il semblerait qu'à cette époque-là, c'était extrêmement difficile. Ouais. En fait, en revenant en France, on s'est habitué à vivre dans notre cocon, en réalité. Autour de nous, on ne nous connaissait pas, on se sentait dénigré, alors on s'est resserré. La famille s'est resserrée, et alors avec des amis autour qui se sont créés, avec difficulté mais qui se sont créés, et c'est de cette manière-là que la vie a continué en réalité. Elle a continué parce que, eh bien, le cocon familial a fait que on se développe pas trop, mais suffisamment pour pouvoir être bien. Ma mère a été une personne qui quand même était très prudente aux rencontres qu'elle faisait. Alors, c'est pas de la terreur, c'est pas de dire attention, peut-être que par le passé. Non, c'est parce qu'en fait, on nous avait montré du doigt, avec des aspects très négatifs, et d'ailleurs qui ne nous concernaient pas, et être vue de cette manière-là, ben, ça la rendait très prudente et pas envie d'avoir de prise de bec avec qui que ce soit pour des raisons qui n'en valaient pas la peine, en réalité. Et après, alors, certainement marqué par les discussions de mes parents, que j'écoutais derrière une porte, mais je suis parti sur un vecteur de vengeance. C'est comme ça. On ne peut pas accepter si tout ce qui nous arrive, toute cette distance provoquée par les gens qui sont censés nous accueillir, on ne leur demande pas de nous héberger, mais on nous demande de nous respecter et de tenir compte de nous. Non, tout ça, ça, honnêtement, à mon sens, ça n'a pas eu lieu. Ça a été très distant. On a été des gênants, des gens qui gênaient. Qui gênaient parce que l'image de la colonisation nous a été jetée dessus, quoi, voilà. Donc, moi, je me suis dit, intègre une école militaire, fais ta route et venge-toi.
À 11 ans, Henri est reçu au concours du Prytanée National Militaire de la Flèche.
Le choix que j'avais fait d'aller dans cette école, c'était le fruit d'une réflexion. La réflexion que les élèves pouvant passer les concours étaient des enfants d'officiers ou de sous-officiers, et bien entendu des gens qui avaient forcément fait le conflit algérien ou le conflit indochinois. Et en réalité, j'ai rencontré plein d'enfants de pieds noirs là-bas, dont les parents étaient militaires. Quoi. Alors, d'ailleurs, la première bagarre que j'ai faite, à l'âge de 11 ans, je me suis battu, on s'est un peu tapé dessus, et on a découvert que nous étions pieds noirs chacun, et on s'est embrassés. Donc, et on est restés copains très 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 longtemps. Donc, le besoin que j'avais de retrouver quelqu'un qui était, entre guillemets, de ma fratrie, il n'était pas que chez moi. Il était aussi chez les autres.
À 19 ans, Henri s'engage dans l'armée pour 3 ans. On lui propose ensuite de travailler pour la défense.
Alors j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que je savais que ça allait être l'Afrique et que l'Afrique, c'était le pays avec lequel j'avais des comptes à régler. Voilà, le continent. Donc je suis parti en mars-avril 82 et donc j'en ai fait pour 8 mois par an jusqu'en 90. Et là, je suis allé Mauritanie, Burkina Faso, Bénin, Togo, Centrafrique, Niger, Tchad, Soudan. Ben, ça a du sens. Ça a du sens parce que toutes ces périodes ont été des périodes d'errance. Parce que quand on est 8 à 9 mois à l'extérieur de chez soi, on n'est pas chez soi. Et pour moi, c'était une manière de compenser la perte de mon pays et la volonté de ne pas m'adapter à la nouvelle structure qui m'accueillait. Voilà. J'étais à l'extérieur et j'étais bien à l'extérieur. Ma vie, je l'ai risquée, oui, pour la France. Je savais que je l'ai risquée, je savais que je pouvais mourir. Mais ce qui comptait, c'était ce que je faisais et la raison pour laquelle je le faisais. Alors mes parents, bien entendu, parlaient beaucoup d'Algérie, comme tous ces pieds noirs qui ont dû partir. Ils ne parlaient pas spécialement de l'Algérie sur d'un point de vue politique, mais c'était le point de vue du souvenir surtout. Du souvenir de la famille, du souvenir des amis perdus. Et oui, ils en parlaient. Et bien sûr que oui, moi aussi, je posais des questions parce que le souvenir que j'en avais était quand même beaucoup plus mince. Moi, je demandais à ma mère comment ma grand-mère faisait à manger. Je posais des questions sur tout. Moi, j'ai passé quand j'étais gamin et que j'étais à la maison, ma mère cuisinait, j'étais scotché à elle. Donc c'est pour ça que je sais faire la paella, je sais faire le couscous, parce que je les regardais faire. Alors qu'avant, on creusait pour savoir ce que l'arrière-grand-père ou l'arrière-arrière, si c'était possible, on était vraiment intéressés de savoir. On passait nos dimanches à questionner nos parents là-dessus, qui sortaient les cartons, les photos, toutes jaunies et tout, c'était bien. J'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps une photographie de ma mère, de mes deux sœurs et de moi sur une jetée des sablettes de Mostaganem. Elle était éditée par quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé ça sur Internet. Et j'ai reconnu ma mère, je me suis bien reconnu et mes sœurs. Et il y avait Monsieur Larib, qui était l'homme qui s'est fait assassiner, l'adjudant en chef qui s'est fait assassiner en 60. Je ne sais pas qui a pris ces photos. Je ne sais pas du tout. Donc ça m'a fait plaisir de me dire que quelqu'un a des photos de ma mère, de moi et de mes sœurs. On est en train de vivre la fin d'une histoire, il faut bien se le dire. Donc on ne représente pas grand-chose à l'échelle du temps. On représente 130 ans. C'est une virgule. Ça ne fait pas grand-chose. Mais je pense qu'il est intéressant que cette période, elle est toujours des relais. Il faut qu'il y ait des relais, même s'ils ne sont pas d'une importance gigantesque. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé. On se souvient de la bataille de Crécy, je ne vois pas pourquoi on ne se souviendrait pas des 130 ans passés en Algérie par la France. Ou alors, si on l'oublie, c'est qu'il y aura une volonté qu'on l'oublie. On est en 2021... on va dire que si le dernier des pieds noirs a 100 ans, ça fait 1921, ça veut dire que derrière, s'il n'y a pas une attraction de la communauté pieds noirs pour des jeunes gens, ça mourra. Ça mourra et on nous oubliera et on disparaîtra comme beaucoup de communautés ont disparu et dont on ne parle plus. Et c'est pas grave, si ça disparaît, ça restera dans la mémoire des morts.
Un grand merci à Henri pour son témoignage. Cet épisode a été monté et mixé par Florian Lanoir. La musique est de Pascal Simoni. Et si vous aussi vous voulez témoigner et que je vienne à votre rencontre, vous pouvez m'écrire à quisesouviendra@gmail.com. Ce podcast est dédié à mes parents ainsi qu'à tous les déracinés.